Merci.
Alors, un bon matin à vous tous. Et merci Pierre et toute son équipe pour ces beaux chants qui nous réchauffent toujours le cœur. Alors, ce matin, je vous invite à prendre vos Bibles, s'il vous plaît, et tourner encore une fois, la dernière fois, dans l'Épître aux Romains, chapitre 11. Notre texte pour ce matin, c'est les versets 33 à 36. Et nous sommes arrivés à la fin de cette longue section doctrinale, où Paul vient d'exposer de façon magistrale la doctrine de la justification par la foi, qui est l'Évangile, adressé aux Juifs et aux païens. Et c'est comme s'il avait escaladé une très haute montagne, il est arrivé au sommet, il regarde en bas, il contemple tellement de belles choses, des scènes tellement majestueuses qu'il a le souffle coupé. Mais juste pour un moment. Et en considérant ce qu'il vient d'écrire à propos de Dieu et Israël, Romains chapitre 9 à 11, ou bien de tout ce qu'il vient d'écrire depuis le début, premier chapitre jusqu'au chapitre 11, il ne peut pas se retenir. Et il va terminer cette section par une doxologie, une hymne de louange à la gloire de Dieu, tellement qu'il est impressionné, ébloui par la grandeur de sa personne. Et laissez-moi vous poser une question tout de suite au début. Arrêtez un moment et pensez à Dieu. Pas à vos enfants, si vous en avez, ou même à vos petits-enfants. Combien mignons soient-ils. Ou même au Super Bowl pour ce soir. Mais pensez à Dieu. Et quelle est votre attitude envers lui ce matin? Êtes-vous dans l'admiration devant sa personne, dans la reconnaissance, dans la joie, dans l'amour, dans l'adoration face à sa personne? Ou ce matin, êtes-vous comme chrétien dans le voyage du pèlerin qui, à un moment donné, s'est trouvé dans la mare du découragement? Alors, quel était le secret de l'apôtre Paul et pourquoi est-il en extase devant la doctrine de Romains 1 à 11, ou plutôt devant le Dieu de la doctrine de Romains 1 à 11? Alors, nous allons lire notre texte pour ce matin, puis après, nous allons essayer de répondre à cette question. Romains 11, 33. Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. Que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Et qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Ça, c'est notre texte pour ce matin et je l'ai intitulé « L'incompréhensibilité de Dieu », un mot que vous allez entendre assez souvent pendant la prédication. Mais c'est tiré directement du texte. Verset 33 nous dit que les jugements de Dieu sont insondables et ses voies incompréhensibles. Et juste une brève explication. Les jugements de Dieu sont ses décrets, ce qu'il déclare, ses sentences, ses plans. On ne peut pas les sonder. Ses voies, c'est la manière d'agir pour mettre en exécution ses décrets, ses sentences, ses plans. Et ce que Paul dit, c'est que les jugements, les plans sont insondables, trop profonds, impénétrables. On ne peut pas rentrer dans la tête de Dieu et savoir pourquoi est-ce qu'il a dit une telle chose. Ça nous dépasse. Et sa manière d'agir et ses voix sont incompréhensibles. Un mot dans l'original qui veut dire dont on ne peut découvrir la trace. Même quand tu regardes comment Dieu agit, Paul le dit, je ne peux pas tracer ça. Impossible. Alors c'est notre Dieu, le Dieu de Paul, notre Dieu aussi, incompréhensible. Et j'aimerais ce matin vous donner trois aspects de cette incompréhensibilité. Dans un premier temps, l'incompréhensibilité de Dieu peut être constatée par une révélation énigmatique. Une révélation énigmatique dans le sens que Dieu a révélé des choses, mais ce sont des choses qu'on ne peut pas saisir complètement. Regardez votre texte encore au verset 33, où Paul s'exclame ainsi, « Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse, et de la science de Dieu. » Et ce qui saisit Paul ici, face à l'incompréhensibilité de Dieu, ce n'est pas tellement les choses cachées qu'on ne peut pas savoir, mais c'est la profondeur des choses révélées qui sont tellement profondes que même d'essayer de les comprendre totalement nous ferait sauter des neurones. Dans Daniel 2:2, nous lisons ceci à propos de Dieu. Il révèle ce qui est profond et caché. Et c'est ce que nous allons essayer, alors, par la grâce de Dieu ce matin, de mieux saisir, mieux comprendre, malgré le fait, comme j'ai dit, nous ne pouvons jamais complètement, totalement, parfaitement tout comprendre. J'aime ce que John Piper a dit à propos de ce texte. En particulier à propos de la profondeur des choses de Dieu. Il a dit que c'est une profondeur indescriptible. Il y a des dimensions à propos de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu qui nous dépassent, sont insondables parce que nous sommes finis et limités, et Dieu, lui, est infini. Mais quand même, malgré cela, c'est une profondeur qui est réelle. S'il n'y a rien, quand on commence à creuser, essayer d'aller au fond, s'il n'y a rien, alors les richesses, les sagesses, les sciences sont des illusions. Mais Dieu nous a révélé pas tout, mais une partie. Comme 1 Corinthiens 13 nous dit, nous connaissons en partie. Et c'est aussi une profondeur ultime. Dieu est au fond de toutes choses. Tout est enraciné en lui et tout converge sur lui. Et qu'importe la profondeur que nous pouvons atteindre, même au fin fond, on trouvera Dieu là. Psaume 139, 7, 8, David va dire ceci, « Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? » Si je monte aux cieux, tu es là. Et si je me couche, où? Au séjour des morts. Si je suis capable d'aller dans les profondeurs des séjours des morts, te voilà. Tellement il est conscient que les choses de Dieu sont profondes. Et pour exemplifier l'incompréhensibilité de Dieu, Paul va parler de la profondeur de sa richesse, de sa sagesse et de sa science. Et ce matin, j'aimerais prendre ces trois termes, mais dans le sens inverse. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas avoir la connaissance sans... Je reprends. On peut avoir la connaissance, mais pas nécessairement la sagesse. Je peux connaître beaucoup de choses. Mais si je ne sais pas comment me servir de ces choses pour les bons objectifs, mais je manque de bateau. Mais on ne peut pas avoir la sagesse sans la connaissance. La sagesse et la connaissance est la racine de la sagesse. Quelqu'un qui est sage, il doit obligatoirement posséder la connaissance. Et celui qui possède et la connaissance et la sagesse possède aussi des richesses. Dans le texte, Proverbes 3, 13 à 15, « Heureux l'homme, pas besoin d'y tourner, qui a trouvé la sagesse, et l'homme qui possède l'intelligence ou la connaissance, le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. » Alors vous voyez justement la progression, la connaissance, vient ensuite la sagesse, et celui qui possède des tout, il y a des richesses spirituelles incommensurables. Alors juste quelques définitions avant de rentrer dans le vif du sujet. La science, la connaissance, le terme dans l'original gnosis, veut dire connaissance dans le sens général de l'intelligence, connaissance des faits. La sagesse, Sophia, savoir comment utiliser les faits pour atteindre des objectifs qui sont justes. Et comme je dis, la profondeur de la connaissance de Dieu, c'est la première chose que j'aimerais voir, mais on ne peut pas donner une étude exhaustive sur ce thème qui sont si beau. La connaissance de Dieu, la sagesse de Dieu, la richesse de Dieu, c'est des si beaux thèmes. Mais Paul veut nous enseigner que Dieu possède la connaissance, et cette connaissance n'est pas juste une connaissance superficielle, elle est insondable. C'est ce qu'il dit, profondeur de la connaissance de Dieu. Ou si vous voulez, Dieu est omniscient. Il possède toute connaissance. Quelques textes pour vous montrer cela. 1 Samuel 2, 3, Dieu nous dit, l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Dieu sait tout. Psaume 147, 5, notre Seigneur est grand, puissant par sa force, son intelligence, sa connaissance n'a point de limite. 1 Jean 3, 20 nous dit que Dieu connaît toutes choses. Et cela nous amène à poser une question. Qu'est-ce que Dieu sait? Qu'est-ce que Dieu connaît? Alors, dans un premier temps, Dieu connaît sa personne parfaitement. Dieu se connaît. Et il faut qu'il en soit ainsi. Sinon, si Dieu ne se connaissait parfaitement lui-même, il serait ignorant de l'objet qui est le plus excellent de tout l'univers, qui est lui-même, et ainsi cesserait d'être Dieu parce qu'il ne saurait pas tout. Alors Dieu doit obligatoirement se connaître intimement, profondément, qui est sa personne. Et quel contraste avec l'homme, la créature. Qui parmi nous ce matin peut dire « je me connais parfaitement » Qui parmi nous dire cela? Pas moi, en tout cas. Et quelle folie même d'y penser. Tu vois, Jérémie 17, 9 nous donne un avertissement solennel. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Et là, il pose une question assez percutante. Qui peut le connaître? Mais le Créateur, Dieu possède une connaissance infinie. Tout d'abord de sa personne infinie et encore plus de nous autres. Et là, vous allez voir cela, je vous donne juste quelques exemples. Une harmonie extraordinaire qui existe dans la Trinité. 1 Corinthiens 2, 10 nous dit ceci, que l'Esprit sonde tout. Même, quoi, les profondeurs de Dieu. Le Saint-Esprit qui est Dieu lui-même est capable de rentrer dans la pensée de Dieu et d'aller au fin fond parce qu'il est le Saint-Esprit. Il possède une connaissance infinie de Dieu infini. Verset 11 de ce texte nous dit, « Personne ne connaît des choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. » Et que dit Jésus dans Matthieu 11, 27? Quel beau texte. « Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et personne non plus ne connaît le Père si ce n'est qui? Le Fils. » Quel témoignage puissant à la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Lui qui connaît parfaitement, profondément, intimement la pensée du Père. Notre Dieu, qui pour nous est incomparable, on le chante, insondable, insaisissable, pour nous les humains. Mais si Dieu possède cette connaissance parfaite de sa personne qui est infinie, combien il doit connaître toute autre chose en dehors de lui? Surtout des êtres comme nous qui sont finis et limités. Vous donnez juste une bref résumé des choses que Dieu connaît, juste pour vous montrer un peu la profondeur. Dieu connaît le passé. Dans le prophète Isaïe, dans le contexte, Dieu parle à Israël à propos de leur faux Dieu. Et il va utiliser un argument pour montrer sa supériorité sur les faux dieux en posant une question. Et remarquez bien ce qu'il dit. Isaïe 41, 22, « Quelles sont les prédictions que jadis vous avez faites? » Vous avez dit des choses dans le passé. « Dites-le pour que nous y prenions garde et que nous en reconnaissions l'accomplissement. » Alors, qu'est-ce que Dieu est en train de dire aux Israélites à propos de leur faux Dieu? Il dit, vous mettre au défi. Retournez dans le passé. Faites une prédiction pour le futur qui a été accomplie dans le passé. C'est pas mal compliqué, hein? Mais non pas pour Dieu. Pourquoi? Parce que c'est le Dieu d'éternité en éternité. Alors, pour lui, il n'y a pas de passé. Tout est présent. Avez-vous déjà pensé à cela? Comment est-ce que Moïse aurait pu écrire la Genèse avec tant de détails? Quand il parle de la création, la chute, même les paroles que Cain a adressées à Dieu après le meurtre d'Abel, etc., si Dieu ne les lui avait pas révélées, lui qui est né quelques 1400 après. Alors Dieu connaît parfaitement le passé. Mais ce n'est pas tout. Dieu aussi connaît toutes choses au présent. Hébreux 4, 13 nous dit ceci, « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Le Créateur, il connaît parfaitement sa création du plus petit au plus grand. Et il va le révéler ça, il va parler à Job dans le livre de Job, il va dire ceci, « Sais-tu? Quand les chèvres sauvages font leurs petits, observes-tu les biches quand elles mettent bas? Et l'implication, c'est que Job, non. Mais moi, Dieu, oui, je sais. Psaume 50, 11, Dieu va dire ceci, je connais tous les oiseaux des montagnes et tout ce qui meut dans les champs m'appartiennent. Et là, ça devient maintenant encore un peu plus proche de nous. Psaume 139, David va dire ceci, Éternel, tu me sondes et tu me connais. Et non seulement Dieu connaît parfaitement sa création, mais il connaît aussi parfaitement toutes leurs actions, tout ce qu'ils font. Encore une fois, Job 31, 4, Job va dire ceci, Dieu n'a-t-il pas connu mes voies? N'a-t-il pas compté tous mes pas? Chaque action que j'ai posée, Dieu le connaît. Proverbe 5, 22, 21 nous dit ceci, « Les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel qui observe tous ses sentiers. » Alors Dieu connaît parfaitement sa création, leurs actions, mais encore, il connaît aussi parfaitement leurs pensées. dans son omniscience, Dieu est capable de pénétrer dans les profondeurs de nos âmes, d'aller dans les coins et les recoins de nos cœurs pour discerner ce qui est vraiment là, les choses secrètes qui sont souvent cachées même à nos propres yeux, et plus encore les motifs derrière nos actions. Psaume 7, 10 nous dit ceci, que Dieu est celui qui sonde les cœurs et les reins. L'idée, ce n'est pas parce qu'il est ignorant de ce qui est là, qu'il ne sait pas, mais il est capable d'aller justement dans les profondeurs de nos êtres, les profondeurs de nos cœurs, et de savoir ce qui est là. C'est le Dieu juste. Proverbe 5, 11 nous dit ceci, « Le séjour des morts et l'abîme sont devant l'Éternel. » Deux endroits qui sont extrêmement profonds, d'abîme. Combien plus les cœurs des fils de l'homme. David au psaume 139 va dire ceci, « tu pénètres de loin ma pensée. » C'est-à-dire que chaque pensée, même avant qu'elle germe dans notre esprit, Dieu la connaît déjà. Psaume 94, 11 dit ceci, « L'Éternel connaît la pensée, les pensées de l'homme. Il sait qu'elles sont vaines. » Ça, c'est le Dieu qui connaît tout. Et c'est le Dieu qui connaissait l'intégrité du cœur d'Abraham. Dans Genèse chapitre 18, au verset 9, il va dire ceci. Le texte dit, « Je l'ai choisi. » Mais une meilleure traduction, ce serait, « Je le connais. » Je le connais. Je sais qu'il ordonnera à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel. Je connais le cœur d'Abraham, un cœur qui est intègre. Dans Jean 21, 17, Pierre était conscient que Jésus connaissait son cœur, la sincérité de son cœur. Et même dans un contexte où, extrêmement pénible pour Pierre, il avait renié son maître trois fois avec des jurons et des imprécations. Et là, quand Jésus va lui dire, « Simon, Pierre, fils de Jonas, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Et Jésus va dire, « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Même malgré les apparences, ce que je viens de faire, tu es capable de lire dans mon cœur et de voir la sincérité qui est là, et tu sais que je t'aime. » Mais Jésus aussi connaissait l'hypocrisie des pharisiens et des scribes. Dans Matthieu 15, 7 et 8, il va dire ceci, « Hypocrite, Esaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, « Ce peuple m'honore des lèvres. » Ça paraissait beau devant le peuple. Et combien son cœur il a dû être attristé, il a dit, « Mais crois, son cœur est éloigné de moi. » Ça, c'est Dieu. Juste une petite parenthèse ici. Nous n'avons pas cette capacité de lire dans les cœurs pour discerner les motifs derrière les actions. Oui, discernant, jugeant le péché, mais de grâce, ne condamnons pas le pécheur. Laisse cela à Dieu qui promet qu'un jour, les pensées de beaucoup de cœurs seront dévoilées. Et Dieu va mettre en lumière des vrais motifs derrière les choses que nous avons vues et les choses que nous avons faites. Et finalement, Dieu aussi, troisièmement, connaît le futur dans son omniscience. Parce qu'il existe en dehors du temps le grand « Je suis » et on voit cela tellement dans sa providence. Je vous donne juste un exemple, l'exemple de la vie de Joseph. Il savait que Joseph serait haï et vendu par ses frères en esclavage en Égypte. Et Dieu va se servir de cela pour l'élever dans une position très élevée, deuxième après le Pharaon, et aussi pour préserver les descendants d'Abraham. Et Genèse 45, 5 dit ceci, quand Joseph se révèle à ses frères, il leur dit, « Ne vous affligez pas de m'avoir vendu pour être conduit ici, parce que c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. » Et la connaissance aussi de Dieu est vue pour le futur et aussi vue dans la prophétie. C'est vu dans la providence, mais aussi dans la prophétie. Les choses que Dieu a prophétisées dans la parole de Dieu, même avant que ces choses arrivent. Je vous donne juste quelques exemples rapidement. Genèse 41, Joseph a pu justement interpréter le songe du Pharaon. Et Pharaon a eu ses songes avant que cela arrive, les abondances, cette année d'abondance et cette année de famine. Dans Jérémie 25, le prophète va prophétiser les 70 années de captivité. Michée 5 va nous prophétiser la venue du Messie. Psaume 22 va nous prophétiser la crucifixion du Messie. Psaume 16, la résurrection du Messie, et j'en passe. Dieu connaît le futur. Alors, quel Dieu omniscient, qui sait tout, qui connaît tout. Mais la question que je vous pose ce matin, est-ce que l'inverse est vrai? Est-ce que vous connaissez Dieu? Vous savez, c'est facile, et je ne dis pas cela pour accuser qui que ce soit ce matin, mais en pouvant avoir l'aide d'un chrétien, on peut parler comme un chrétien, on peut chanter même comme un chrétien, sans être chrétien. Et c'est tellement solennel parce que la parole de Dieu nous dit que Dieu va juger le monde un jour. Et ce serait tellement triste si quelqu'un se présente, ici ce matin, se présentera devant Dieu un jour. Et d'entendre ces paroles, « Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. » C'est sans l'air. Parce qu'on ne peut pas tromper Dieu. Il sait toutes choses. Mais inversement, quelle bénédiction d'être sauvé et de le savoir. Comme l'aveugle né, quand le monde il est bombardé de questions, il dit « Non, je sais une chose. J'étais aveugle, mais je sais que je vois. » Ou puis les autres choses. Sais-tu un prophète? Sais-tu un... Non, non, non. Moi, je vois. Je le sais. Et si nous sommes chrétiens, comment sommes-nous en train de vivre devant Dieu qui sait tout? Juste quelques explications. Y a-t-il des péchés cachés dans nos cœurs? Voilà de la vue des hommes, mais non aux yeux de Dieu. Et quand nous confessons nos péchés, est-ce que nos confessions sont complètes ou partielles? Et si on fait des confessions partielles, on va abaisser Dieu à notre niveau. On va le traiter comme s'il est un homme, un humain, qui est ignorant de certaines choses. Et ça, c'est une insulte à cette perfection. Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Josué va dire à Achan, qui cachait un péché, « Mon fils, donne quoi? Donne gloire à Dieu. Dis-moi donc ce que tu as fait, ne me le cache pas. » Et qu'il en soit ainsi ce matin dans votre vie, dans la mienne, et pour sa gloire. Mais aussi, il y a une consolation dans cet attribut. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Et ce matin, si vous êtes dans une situation difficile, et ça peut arriver, si vous traversez la vallée de Baca, la vallée des pleurs, et vous êtes découragé, et si vous êtes comme les enfants d'Israël qui gémissaient dans une dure servitude, l'El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, tout suffisant, voit votre souffrance et connaît vos douleurs, comme il a dit à Moïse. Et comme un père tendre et compatissant, il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas oublié. Il ne peut pas être oublié parce qu'il est omniscient. Il ne peut pas être oublié. Et combien c'est encourageant de savoir que malgré nos pas qui sont souvent boiteux, la parole de Dieu nous dit, il ne brisera pas le roseau cassé. Et si ce matin, si le cri de votre cœur, c'est « je suis plus capable », un beau texte pour vous, pour moi, Jérémie 29, 11, « car je connais les projets, dit l'Éternel, que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner quoi un avenir et de l'espérance. » Oh, que notre Dieu est gracieux, qu'il est gracieux. Alors, l'incompréhensibilité de Dieu qui est vue dans la profondeur de sa connaissance, mais aussi dans la profondeur de sa sagesse. Tellement sage, notre Dieu. Il est la sagesse incarnée. C'est son essence même. Et Dieu sait comment utiliser la connaissance qu'il possède, non seulement pour des buts qui sont droits et justes, mais au moment opportun. Je vous donne quelques textes rapidement. Job 12, 13. En Dieu réside la sagesse et la puissance, le conseil et l'intelligence lui appartient. C'est sans Dieu, ça. Daniel 2, 20 nous dit ceci. Béni soit le nom de l'Éternel d'éternité en éternité. À lui appartient la sagesse et la force. Et Paul, dans Romains 16, 27, va dire ceci. À Dieu seul sage. Et comme dans les évangiles, nous disons, il n'y a de bon que Dieu seul. Mais la même chose est vraie, il n'y a de sage que Dieu seul. Il est l'essence même de la sagesse. Et même la folie de Dieu, la croix est plus sage que les hommes. Nous dit 1 Corinthiens 1, 25. Alors où est-ce que nous voyons cette sagesse? Dans la création. Psaume 184 nous dit ceci, que tes œuvres sont en grand nombre, tu les as toutes faites avec sagesse. Et je n'ai pas le temps ce matin de rentrer dans toute la complexité de la création, le corps humain qui est une machine merveilleuse, et toute la sagesse, comment Dieu a tout fait cela, tout le cycle d'eau, et ça me dépasse, mais c'est la sagesse. La création porte l'empreinte de la main sage de l'architecte qui est Dieu. Mais aussi, on voit dans Jésus-Christ, même à l'âge de 12 ans, il est dans le temple, assis parmi les docteurs, les écoutant, les interrogeant, et que dit le texte, Luc 2, 47, tout ce qu'il entendait était frappé de son intelligence et de ses réponses. Paul, dans 1 Corinthiens 1, 23, nous dit ceci, « Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés. » Alors, la sagesse de Dieu vue dans la création, vue dans le Christ, mais aussi à la croix. Et ça, j'aimerais s'attarder quelques instants juste pour vous montrer cela. Un scénario qu'on va inventer, on va utiliser notre imagination sanctifiée ce matin. Et là, vous avez un pécheur coupable qui se tient devant le Dieu trois fois saint. Éphésiens 3:10 parle de la sagesse infiniment variée de Dieu. Et dans ce scénario, qu'avons-nous? Je l'ai emprunté de, comme j'ai dit dimanche dernier, mon puritain préféré, Stephen Charnock. Nous avons d'un côté, devant ce tribunal, nous avons d'un côté la justice de Dieu qui réclame la sentence la plus sévère contre ce rebelle, ce fils d'Adam, qui a brisé la loi de Dieu volontairement, qui s'est ligué avec l'ennemi pour ternir le nom et l'honneur de Dieu, qui a donné l'occasion aux ennemis de Dieu de blasphémer. La justice de Dieu exhorte Dieu alors à sévir pour que l'honneur de la loi de Dieu et de l'honneur de celui qui a donné la loi soit préservé. En mettant en pratique ce que la loi stipule, Ézéchiel 18, 4, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et de l'autre côté, nous avons la miséricorde de Dieu qui va plaider ainsi. Est-ce que Dieu a créé le monde pour qu'il subisse un déshonneur éternel en permettant à Satan de l'enlever de ses mains et vaincre sa plus noble création, l'homme qui a été créé à l'image de Dieu? Est-ce que Dieu allait laisser l'œuvre des sages conseils éternels sombrer dans une destruction irréparable occasionnée par la ruine de la créature? Ne serait-ce pas contraire à ta nature, Dieu, de créer l'homme dans ta bonté pour ensuite l'abandonner dans la misère? Ne suis-je pas moi la miséricorde, l'un de tes attributs, aussi bien que la justice? Permets-moi alors de me manifester à la créature, car si l'homme reste dans sa ruine, la création a été en vain. Et la justice réplique, et si l'homme n'est pas condamné, la loi a été en vain. Alors, entre deux autres acteurs, la vérité et la grâce. La vérité se range à côté de la justice, et la grâce se range à côté de la miséricorde. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dans cette situation qui est apparemment contradictoire, si l'homme n'est pas pardonné, la miséricorde ne peut pas se manifester. Et si l'homme n'est pas puni, la justice va se plaindre. Mais quelle sagesse! Quelle sagesse révélée dans la solution de Dieu à cette problématique. Le sacrifice de son Fils bien-aimé Jésus-Christ sur la croix de Calvaire. Quelle sagesse! La justice a été satisfaite à cause de la punition subie par Jésus-Christ. 1 Pierre 1, 18 nous dit « Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes. » Et la miséricorde de Dieu a été manifestée dans le pardon des péchés. Éphésiens 1, 7 « En lui nous avons la rédemption. » Par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Quel beau texte! La richesse de sa grâce pour pardonner tous les péchés passés, présents et futurs. Et j'aime ce que Charnock a écrit à propos de ce texte ici, ce scénario. Les richesses de sa grâce sont entrelacées avec les terrains de la colère et les entrailles de la miséricorde avec l'épée flamboyante de la justice. Selon Romains 3, 26, Dieu montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Notre Dieu sage, quelle sagesse! Combien nous devrions le louer, l'exalter pour sa sagesse. Combien nous devrions prendre à cœur Proverbe 3:5, ne t'appuie pas sur ta sagesse, mais la rechercher auprès de Dieu, avec un cœur soumis. Rechercher cette sagesse, disposé à se soumettre à la sagesse de Dieu. Et combien le Saint-Esprit doit être attristé quand nous contestons et nous disputons avec Dieu. Parce qu'en ce moment, nous sommes en train de déclarer que nous sommes plus sages que lui. Et troisièmement, l'incompréhensibilité de Dieu est vue la profondeur de sa connaissance, la profondeur de sa sagesse, mais aussi dans la profondeur de la richesse de Dieu. Éphésiens 7 nous parle de la richesse de sa grâce. Romains 2, 4 nous parle des richesses de sa bonté. Romains 9, 23 nous parle de la richesse de sa gloire. Et ce sont juste quelques échantillons de la richesse de Dieu qu'il a plu à Dieu de nous révéler. Et même dans ce que nous connaissons, qui parmi nous peut sonder la profondeur de la richesse de la grâce de Dieu? Acte 4, 23 nous dit que cette grâce est grande. Psaume 145, 7 parle de sa bonté, la profondeur de sa bonté immense.
sa gloire, la richesse de sa gloire. 1 Pierre 5, 10 nous dit qu'elle est éternelle. On ne peut pas y aller, on ne peut pas y sonder justement ses profondeurs. Et pourquoi? Parce que la grâce, la bonté, la gloire sont des émanations de sa personne, de lui-même, qui fait que Dieu est la richesse elle-même, le trésor suprême de l'univers. Et c'est quelque chose qui est intéressant ici. Dans Éphésiens 1:8, Paul va parler des richesses incompréhensibles de Christ. Il va dire ceci. En parlant des... Il a été faite la grâce d'annoncer parmi les païens les richesses incompréhensibles de Christ. Et juste une chose qui m'a frappé ici. Rappelez-vous que dans les proverbes disent que celui ou celle qui possède la connaissance et la science, c'est un homme qui possède aussi la richesse spirituelle. Et dans Colossiens 2:2-3, on parle de Christ et on dit qu'en lui résident, sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. En Christ, on a tous ces trésors de sagesse et de connaissance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Que Christ est riche. Les richesses incompréhensibles de Christ, ce n'est pas tellement la grâce et la bonté, la miséricorde qu'il peut dispenser aux païens, mais c'est sa personne elle-même qui est cette richesse incompréhensible. Et il a plu à Dieu le Père d'ouvrir les cieux et dire, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je trouve, quoi, tout mon plaisir. » Parce que c'est un trésor. Jésus-Christ, les richesses incompréhensibles de Dieu étant Jésus-Christ. Et ce matin, Jésus-Christ est le trésor de son Père. Est-ce qu'il est votre trésor? Est-ce qu'il est mon trésor? Est-ce que nous trouvons comme Dieu notre plaisir en sa personne? Deuxièmement, et je dois activer, l'incompréhensibilité de Dieu est constatée par une révélation énigmatique, mais aussi par une réplique emphatique. Et Paul va frapper ceux qui s'opposent à cela plein figure avec trois questions. Qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier? Si Dieu se connaît parfaitement, lui-même, et connaît parfaitement les pensées de l'homme, comme nous avons déjà vu, l'homme, au contraire, qui se connaît à peine lui-même, comment est-ce qu'il peut prétendre de connaître la pensée du Dieu infini de l'univers? Quelques textes, Psaume 92:6, le psalmiste va dire ceci, « Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont quoi? Profondes. » Profondes. Insondables. Faut pas y aller. Psaume 139:6 va dans l'autre sens. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Alors la réponse ici, c'est personne. C'est pas vous, c'est pas moi. Personne qui a connu la pensée du Seigneur. Qui a été son conseiller? C'est comme si ça implique c'est du pauvre Dieu, hein? Il est au ciel, il est en train de se gratter la tête. Qu'est-ce que je fais maintenant? Comment est-ce que j'agis? Les hommes ont fait ci, ils ont fait ça. Qu'est-ce que je fais? J'ai besoin d'aide. Ça, c'est nous autres. Et c'est normal. Les problèmes sont remplis de textes qui nous disent que oui, il faudrait chercher la sagesse, ce salut et dans le grand nombre des conseillers, ainsi de suite. Mais auprès de Dieu, personne qui peut lui donner les sagesse. Éphésiens nous dit ceci, il opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Pas besoin de vous, pas besoin de moi. C'est bien sûr qu'il y a des questions honnêtes. Des fois, on est dans le pétrin, on est dans les situations difficiles et on pose des questions honnêtes. Oui, on peut s'approcher de Dieu, mais quand on s'approche de Dieu puis essaye de dire non, tu ne devrais pas agir comme ça. Ça, ce n'est pas notre place. Et troisièmement, Et qui est-ce que lui donner le premier pour qu'il y ait à recevoir? C'est comme si on dit à Dieu, « Ah, il t'a manqué quelque chose. C'est moi qui te l'a fourni. Et maintenant, toi, tu m'en dois une. » Le débiteur. Psaume 52 nous dit ceci, Dieu va dire ceci. Si j'avais faim, je ne dirais pas. Car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Si on parle de richesse spirituelle, tout est à Dieu. Si on parle de richesse matérielle, tout est en lui. On ne peut pas instruire Dieu, lui donner conseil, réclamer quoi que ce soit de lui. J'aime beaucoup l'attitude de Job, parce que Job y est passé par là. Et quand Dieu a posé la question, celui qui conteste avec Dieu a-t-il une réplique à faire? Ah ouais, tiens. Sa réponse, voici, je suis trop peu de choses. Que te répliquerai-je? Je mets la main sur la bouche. J'ai paré sans les comprendre des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois point. Mon oreille avait entendu parler de toi et maintenant mon œil t'a vu. Et c'est pourquoi je me repens, je me condamne, je me repens sur la poussière et la cendre. Ça, c'est notre place. Face à notre Dieu qui est incompréhensible. Et Paul va dire ceci, de lui sont toutes choses, Dieu est la source. Par lui sont toutes choses, Dieu soutient toutes choses. Et pour lui sont toutes choses, Dieu devrait être servi par tous. Et finalement, l'incompréhensibilité de Dieu est conclue. Il y a juste une seule logique réponse à ce que nous venons de voir. Il y a cette révélation énigmatique au début. Il y a la réplique emphatique. C'est pas toi, c'est pas toi, c'est pas toi. Maintenant, il y a les réponses extatiques. Et Paul est là, il est rendu là. Il vient de voir toute cette beauté dans la personne de Dieu. Il a dit à lui la gloire. Il ne peut pas dire d'autre chose. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Et là, il va nous amener dans chapitre 12. On va prendre une petite pause avec les hors-série. Mais là, il va se baser sur les 11 premiers chapitres pour dire, je vous exhorte donc, à cause de ce qu'on vient de voir, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, qui sera de votre part une culte raisonnable. Raisonnable parce que c'est Dieu qui est ce Dieu avec lequel nous avons affaire. Et donner d'autres choses moins que cela, c'est une insulte à sa personne, à sa toute connaissance, à sa toute sagesse et aussi à sa toute richesse. On va prier. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons. Dans ta bonté, tu as pu te révéler à nous des vermisseaux. Tu nous as donné quelques échantillons de ta personne. Tu as dit à Moïse, l'homme ne peut pas me voir et vivre. Mais nous sommes un peu comme Moïse ce matin. Fais-nous voir ta gloire, Seigneur. Et que nous puissions prendre notre place devant toi, le Créateur, le grand Dieu, insondable, incompréhensible de l'univers. Mais un Dieu qui est tellement bon, qui est tellement gracieux, qui est tellement riche en amour pour nous, ses enfants. Merci encore une fois pour la croix. Merci pour Christ, des richesses incompréhensibles qui se trouvent dans sa personne. Bénis ton peuple, Seigneur, et sauve encore en 2012 pour ta plus grande gloire. Amen.